Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et si nous faisions un dernier bilan de 2020 avant de basculer en 2021? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de mouvement, de trail, de plaisir de bouger, le plaisir de retrouver la forme en bougeant, mais de retrouver aussi autre chose que la forme. Et j'en parlerai à la fin de cet épisode parce que je vous dirai, dans cet épisode, un petit peu mes envies, mon utopie pour 2021, mon utopie à travers ce podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, la pêche, que tout se passe bien pour vous, que les fêtes de fin d'année se déroulent bien. Aujourd'hui, j'enregistre, il nous reste quelques jours, pour tout, rien de vous cacher, on est le 29 décembre, quand j'enregistre cet épisode. Épisode solo, aujourd'hui, je vais faire mon petit bilan à moi, bilan de mes courses, bilan de mon année, bilan de Kilomètre 42 aussi, de cette année, qui fut formidable sur le plan du podcast, autant le dire, qui fut formidable sur les retours que vous m'avez envoyés, sur le partage que nous avons eu ensemble. J'ai encore relu ce matin un petit mot qui était dans mon cœur et de l'avant, et qu'est-ce que ça me fait chaud au cœur de voir vos messages, qu'est-ce que ça me fait chaud au cœur de voir tout simplement comment les uns et les autres vous prenez des bouts, des petites bouts de fragments de ce que je vous donne à travers le podcast, de ce que mes invités vous donnent à travers le podcast pour progresser vous aussi. Et on en parlera à la fin parce que vraiment ça me fait chaud au cœur. Mais dans ce bilan, il ne serait rien si on ne parlait pas d'abord de course à pied, de kilométrage, de distance parcourue. Oui, parce que peut-être vous attendez ces chiffres-là, vous demandez comment moi j'ai pu courir dans mon année. Et soyons honnêtes, c'est une année où avec beaucoup moins de kilométrage que prévu. J'avais prévu de faire 2020 km et j'en suis très 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 loin. J'ai fait 1242 km. Vous calculez, il manque presque 800 km au compteur. Bien sûr, 2020 s'est pas passé comme prévu, et pas seulement sur le plan du sport. Il y a eu les confinements, il y a eu les interdictions de faire du sport, les interdictions d'aller dans les salles de sport, les interdictions de se retrouver, les interdictions des courses. Tout ça a joué, bien entendu. Donc voilà, ça expliquera aussi qu'à un moment donné, il y a eu moins de kilométrage, mais ne mettons pas la faute tout sur ce virus, parce que il y a aussi une gestion qui vient de moi. Si j'ai moins couru que prévu, ça vient aussi tout simplement de moi, comment j'ai géré mon année. Bon, j'ai fait 1242 km donc cette année et 18 683 mètres de dénivelé positif. Ça, par contre, il y a du progrès. C'est-à-dire que j'en ai quand même fait plus que l'an dernier, en courant, on va dire, un petit peu plus, mais vraiment, j'ai fait plus de dénivelé. Et j'ai fait 156 jours d'activité, et à 76% de la course. Oui, 76% de la course. Alors, qu'est-ce que sont les autres pourcentages qui restent? Eh bien, vous le savez, j'ai nagé l'été dernier pour arriver à faire mon premier swimrun. J'ai fait un petit peu de vélo d'appartement, qui est rentré dans les statistiques. Et puis, surtout, le reste, c'est de la marche. Voilà, c'est de la marche qui a été comptabilisée en tant que marche. C'est-à-dire que j'ai rentré des fois dans Strava certaines activités en pure marche parce que j'ai considéré que c'était des entraînements. Et ça, je vous l'ai toujours dit, l'entraînement, c'est de la course à pied, mais c'est aussi de la marche. Marcher fait partie de l'entraînement. Il y a des jours, des semaines, tout simplement, quand on regarde mon Strava, c'est de la marche, c'est pas de la course à pied qui est rentrée. Et je l'ai considéré comme de l'entraînement, comme du travail du foncier, comme du travail de l'endurance fondamentale, comme de l'adaptation du corps à de l'activité physique, tout simplement parce que c'était le cas. Après la période de confinement, par exemple, je n'ai pas repris la course par de l'activité forte et intense, j'ai repris d'abord par de la marche, puis ensuite par des petites fractions de 6 fois 1 minute. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, j'avais commencé par reprendre la marche sur des terrains plus difficile, que j'ai envie de dire, que de se balader sur le parking d'à côté parce qu'on n'avait pas le droit d'aller très loin de la maison juste pour faire jouer ma fille quelques minutes. Donc à partir de ce moment-là, j'ai considéré que la marche était vraiment de l'entraînement, et je vous le dis, et j'ai fait des épisodes sur le sujet, j'ai fait des vidéos sur le sujet sur ma chaîne du Hamsters Running Club. Vraiment, la marche fait partie de l'entraînement. La marche vous aide à courir et j'avais fait un épisode qui était vraiment important, que je garde pas dans mon top des épisodes de l'année, mais qui aurait pu en faire partie. La marche fait vraiment partie pour vous, hein, vraiment, surtout quand vous débutez, surtout quand vous revenez de blessure, surtout quand on venait dans des situations un petit peu, un peu de fatigue, des choses comme ça. La marche fait partie des activités qui sont très importantes. Et même une année, quand je m'étais cassé le coude, c'était ben en janvier, hein, on va arriver dans les dates anniversaires à peu près, hein, de cette fracture du coude. Je n'avais plus le droit de courir, mais j'avais maintenu mon activité en faisant que de la marche, en allant marcher tous les jours, environ une heure et quart. J'allais marcher tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur les chemins autour de la maison, là où je vais courir d'habitude. Et c'est ce qui m'avait permis de reprendre beaucoup plus facilement ensuite la course, et de reprendre même, de faire un premier trail de 13 km avec un seul entraînement de course, qui avait été bien sûr un peu difficile sur le plan du rythme, etc. Mais qui n'avait pas été si difficile que ça, si on compare après ma période de pause de cette année, après mes 8 semaines d'arrêt de confinement, où ça a été beaucoup plus compliqué parce que bah, il n'y avait pas la marche non plus. Voilà, c'est la pratique de la marche est restée dans ces jours d'activité, donc je l'ai laissé à l'intérieur de ces activités-là. Et donc, ce qui explique que il y a 76% de courses, il doit y avoir 4% de natation, il doit y avoir 2-3% de comment ça s'appelle, de vélo d'appartement. Le reste, voilà, c'est de la marche. Ensuite, ça représente 147 heures d'activité. Bon, 147 heures d'activité, comme ça, bah, j'avoue que je ne sais pas trop comment le prendre. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On pourrait dire quand même que ça aurait pu être beaucoup d'heures à écouter des podcasts, à écouter des livres audio, des choses comme ça. Mais vous savez qu'en cours d'année, j'ai décidé de ne plus changer mes écouteurs. Je cours désormais sans écouteurs, ou alors très rarement, hein, j'ai repris mes écouteurs filaires pour quelques sorties, pour bah, par exemple les défis qu'on me lance de courir les 5 km ou les 10 km du défi du Hamsters Running Club pour le solstice qui avait été organisé par Knack. Knack en vrac, hein, pour son pseudo. Voilà, ça fait partie des moments où il faut un peu se challenger, où je mets ma playlist course. Mais c'est vrai que cette année, j'ai décidé, pendant cet été, hein, tout simplement, mes écouteurs m'ont lâché. C'était pendant les vacances, voir de la mer. Une sortie qui durait... c'était ma sortie, l'une des sorties les plus longues du mois d'août, hein. Elle faisait environ 21 km, comme ça, j'étais parti tôt le matin dans les chemins, dans les petites montagnes au-dessus de Gruissant, dans la Clap. Et donc, mes écouteurs avaient décidé de s'arrêter de fonctionner ce jour-là. Et ben, je les ai pas changés, je les ai pas essayé de voir s'ils redémarraient ou quoi que ce soit. Je cours maintenant, en grande partie, sans écouteurs. J'écoute plus la nature, j'écoute plus mon corps, j'écoute notamment le bruit de mes pas. Est-ce que ça fait du bruit? Boum, 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 boum. Ou est-ce que finalement, je suis plus en douceur? Vous savez, c'est un sujet qu'on avait abordé notamment avec le Taz, l'épisode avec le Taz, qui est un épisode que vous avez beaucoup apprécié parce que le Taz est un sacré personnage. Mon heure préférée de course, c'est 6h, 7h le matin. Voilà, c'est Strava qui me le dit. Mon heure préférée de course, c'est 6h, 7h le matin. Et pourtant, je vous garantis que c'est assez surprenant parce que les entraînements club, c'est 18h30, 20h, voilà, 18h30, 20h, le mercredi, le vendredi. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu moins d'entraînement club. Avec les confinements, il n'y a pas eu d'entraînement de club, tout simplement, pendant une grande partie de l'année. Ce qui doit expliquer aussi cela. Et moi, mon heure préférée, c'est 6h, 7h. Vous savez que j'aime bien réveiller le soleil. Je suis un réveilleur de soleil. En ce moment, sur mon Instagram, d'ailleurs, on me pose des questions sur quelle est la plus belle photo de lever de soleil, etc. J'en partage quelques-unes, hein, au bord de la mer, juste au-dessus de la maison avec une mer nuage, des choses comme ça. Vraiment, mon créneau, c'est 6h, 7h. Cette année, c'était plus compliqué parce que la meilleure période, celle où je préfère aller courir très tôt le matin parce que le soleil se lève très tôt et puis on a une belle luminosité. On peut aller courir encore plus tôt que ça. C'est-à-dire que quand je dis courir plus tôt que ça, c'est même partir à 4h30 pour être au lever du soleil quand les luminosités commencent à monter vers 5h, vous savez, dans ces zones-là. Et là, c'est autour plutôt du mois de juin, vous voyez, dans ces zones-là. Fin mai, début juin, des choses comme ça. Mais tout le mois de juillet, par exemple, quand je courais en quotidien, je courais entre 6h et 7h. Au mois d'août, je partais entre 6h et 7h, un petit peu plus tard, après, au fur et à mesure que la journée, raccourcit, hein, tout simplement, mais... J'aime bien cette période-là, j'aime bien ces moments-là, j'aime bien regarder la nature se réveiller, j'aime bien le soleil, aller voir réveiller le soleil, comme je dis. Et puis, pour moi, c'est aussi un moyen de courir, y compris quand il fait très chaud, parce que c'est le moment, finalement, où je trouve qu'il fait le plus frais, voilà, tout simplement. Et c'est l'été quand il fait très chaud, c'est pas à 9h qu'on va pouvoir aller courir, c'est pas le soir alors que la route a surchauffé qu'on peut aller courir, c'est vraiment dans le créneau du matin. Donc ce créneau de 6h, 7h reste pour moi le créneau préféré, et d'ailleurs c'est aussi mon créneau dans lequel j'enregistre souvent le podcast. Alors pas quand j'ai des invités, mais quand je suis en solo, c'est le moment où j'enregistre le plus souvent les épisodes. Et d'ailleurs là, pour pour tout vous dire, il est 6h pile du matin, vous voyez, j'ai commencé à enregistrer il y a quelques minutes. C'est mon créneau, voilà, moi je suis un lève-tôt, je me lève tous les jours à 5h, je fais mes petites routines du matin, des choses comme ça, et ensuite j'attaque, soit pour faire du podcast, soit pour aller courir, soit pour écrire, soit pour créer du contenu. Mais en tout cas, c'est ce créneau-là du matin, c'est mon créneau le plus productif et aussi celui sur lequel je préfère aller courir. Mon activité la plus longue de l'année, c'est le trail de mon anniversaire. C'était le 4 octobre, 28 km, le trail Castelpontin. C'est aussi celui où j'ai fait le plus de dénivelé. Bon, il se trouve aussi que c'est mon dernier dossard officiel de l'année. Voilà, 4 octobre. Bon, il y aurait bien eu d'autres courses potentielles, etc. Après, il y a eu des courses virtuelles. Bon, bref, vous savez ce que j'en ai pensé. Les courses virtuelles ne m'ont pas motivé beaucoup plus que ça cette année. Je me suis lancé à la fin de l'année, je le redis, dans les défis du solstice d'hiver de Knack pour le Upstart Running Club, parce que c'était sympa quand même, c'était sympa de remettre un petit peu en jeu finalement notre capacité à accélérer un petit peu. Mais c'est vrai que cette année, c'est pas une année dans laquelle j'ai beaucoup fait de courses, et forcément on a tous été dans la même logique, hein. Ça a bien commencé, pourtant je le dirai un petit peu plus tard, c'est bien commencé par une course tout début janvier. D'habitude, ça se finit par une course toute fin décembre, mais là, il n'y en a pas eu. Et puis, il n'y a pas eu plein de courses qu'on peut se faire là-dedans. Et donc, finalement, bah là, il y a des courses un petit peu symboliques. Et cette course de trail de mon anniversaire de 28 km, le trail Castelpontin, c'était mon cadeau. Voilà. Alors, une distance sur laquelle j'étais pas tout à fait prêt. Mais c'était mon défi, j'ai eu un petit peu de mal à finir, les derniers kilomètres de plat m'ont semblé être beaucoup moins plats qu'ils ne l'étaient réellement, alors pourtant ils étaient vraiment plats, je pensais à l'accélérer beaucoup plus vite, mais comme le dit mon coach, on dit bah écoute, si t'as souffert, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, tu vois maintenant ce que tu dois travailler. Et oui, je sais ce que je dois travailler cette année, c'est notamment la préparation physique, c'est ce que j'ai commencé à faire sur le mois de décembre, j'ai vraiment axé beaucoup plus là-dessus. Même si j'avoue que je peux pas en faire autant que je veux, ou en tout cas j'arrive pas à me motiver autant que je voudrais en faire. Je m'étais inscrit en salle de sport, en salle de musculation, pour aller faire du renforcement, pour profiter de certains appareils, et vous savez ce qu'il est arrivé des salles de sport, bref, j'ai pas pu trop profiter de mes séances. Mon compte Strava, qui m'a fait ses statistiques, m'a fait remonter une moyenne de 6 minutes au kilomètre, oh, 6,01 au kilomètre, sur l'ensemble de mes activités de l'année. Y compris d'ailleurs la marche, et donc la course. Alors bien sûr, il a fait des calculs en me disant que si on ajustait avec la pente, on serait plutôt dans du 5,44. Il m'a même dit que vu les conditions de l'année, l'entraînement, etc., bon, en fait, on peut considérer que j'ai couru beaucoup plus vite que ça. Mais en fait, ces chiffres-là n'ont aucun intérêt en tant que tel. Ce qui est intéressant finalement dedans, c'est que cette année, j'ai fait beaucoup d'endurance fondamentale. Cet esprit de courir doucement et puis aussi d'alterner avec des moments où on court beaucoup plus vite. Et c'est le travail de VMA, c'est aussi le travail de côte. Alors le travail de côte, bien sûr, on peut pas aller à des grandes allures, mais c'est le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible en montée. Et donc, j'ai alterné dans ces périodes-là avec beaucoup d'endurance mentale pour travailler le foncier, pour travailler la distance, pour allonger les distances. Et aussi, à côté de ça, bah, du travail de vitesse, de travailler sur de la VMA, VMA courte, un petit peu de seuil, mais pas beaucoup de seuil, on en fait plus avec le club, et j'avoue que le seuil tout seul, c'est pas très motivant, soyons honnêtes. Avec le club, on arrive à s'entraîner, à s'entraîner les uns les autres, à tenir plus de vitesse. Et puis, bien entendu, bah, c'est 6,01 par rapport à mes préparations d'allure marathon, ils sont beaucoup plus lents, hein, et ma préparation marathon de l'année a été interrompue, voilà, donc ce qui fait que c'est aussi ce qui explique, hein, que finalement, ben, il y a beaucoup de travail de qui était une allure plus spécifique qui n'a pas été fait, tout simplement parce que ben, j'avais pas de préparation particulière à faire. Vous savez que j'ai longtemps hésité sur la fin de l'année à dire est-ce que je ferais pas un marathon de fin d'année ou quoi que ce soit, mais entre le swimrun plus le trail de mon anniversaire, rajouter un marathon, j'étais cuit, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, cette année, on va dire que j'ai couru à 10 km/h en moyenne, avec bien sûr des moments plus rapides, des moments plus lents. Et c'est le jeu, hein, c'est comme ça, chacun on court à notre vitesse, chacun on a notre allure. Je suis un coureur lent, hein, je le répète, probablement plus rapide que certains d'entre vous, probablement beaucoup plus lent que certains d'entre vous. Voilà, c'est le jeu, on est tous à notre allure, et en fait l'allure qui compte le plus, c'est celle qui nous donne le sourire, et c'est vraiment un des axes, hein, que je voudrais travailler le plus sur 2021, c'est comment on arrive à trouver l'allure qui nous donne le sourire, comment on travaille l'allure qui nous donne le sourire, parce que je pense que c'est un des éléments, un clé aussi dans le fait qu'on arrive à s'accrocher. Parce que il y a trop de gens qui abandonnent la course, il y a trop de gens qui se désespèrent hein, par rapport à ces histoires de vitesse, à ces histoires de fatigue, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, que il y ait le plus de monde qui court. Mais avant de vous reparler de ça, je voudrais d'abord continuer mon petit bilan, et notamment mes périodes de pause. Parce que finalement, cette année, j'avais eu un peu de mal à savoir en combien de temps on faisait des pauses. Parce que d'habitude, dans une année, on dit, bon, on fait la petite pause estivale, est-ce qu'il faut pas faire la pause estivale? Moi, je vous ai dit, mon moment préféré pour courir, c'est sur le moment de l'été. Est-ce qu'il y a des moments où on fait combien de temps on fait de pause? Eh bien, cette année, j'ai 13 à 14 semaines de pause, on va dire, il y a des demi-semaines, mais on va dire que je suis à 13 semaines complètes de pause, ça veut dire quand même un quart de l'année. Alors il y a le premier confinement, 8 semaines, pendant lequel je n'ai pas du tout couru, et puis il y a eu le confinement d'automne, et là j'ai fait 5 semaines de pause, qui correspondent en fait à la pause, vous savez, où j'ai dit je suis fatigué, ou j'ai besoin de recharger, ou c'est l'automne où je sens que j'ai moins d'énergie, où je vais faire un peu comme les arbres, où je vais plutôt me mettre en mode repos, refaire du jus, pour attaquer ensuite une préparation derrière. Et en fait, entre le temps de repos par rapport à mon trail d'anniversaire, puis ces moments de pause, et puis le fait qu'il n'y ait pas les crosses, qu'il n'y ait pas tout un tas de courses que j'ai prévu qu'ils soient faites, finalement j'ai allongé ma pause, et au total ça faisait 5 semaines. Donc ce qui fait sur l'année, finalement il y a un quart de l'année pendant lequel je n'ai pas couru, on va dire volontairement, ou on va dire un peu poussé par les événements de l'année, hein, tout simplement. Mais où je n'ai pas couru. 13 semaines, bon, j'avoue, ça fait longtemps, je n'ai pas regardé les autres années, mais ça fait longtemps que j'avais pas couru aussi peu. D'habitude, il y a toujours un bout de pause, etc. L'année du marathon de Paris, j'avais fait 3 semaines, on va dire bonnes 3 semaines de pause après le marathon de Paris, le temps de que ça revienne un petit peu l'envie, hein, voilà, tout simplement. Mais j'avais couru tout l'été, et puis sur la période hivernale, j'avais enchaîné, puisque notamment, je vous le dis, hein, chaque année, je cours la corrida de la Saint-Sylvestre, qui est autour du 29 ou 30 décembre, et puis j'attaque par la course des Rois à Chape, qui est autour du entre le 5 et le 10 janvier, hein, suivant comme ça tombe à peu près les dates. Donc généralement je n'ai pas de pause pendant l'hiver. Cette année il y a eu des grandes pauses. Alors on va voir ce que ça aura comme impact sur 2021, comment va se passer 2021. On va dire que normalement, théoriquement quand même, je suis pas fatigué hein, quand je vais rattaquer vraiment fortement, parce que là on est sur une période un petit peu de pré-reprise encore, et puis cette semaine un peu spéciale, un peu particulière, parce que j'ai quelques douleurs et qui, je pense, qui viennent aussi du fait que j'ai pas assez bougé, soyons honnêtes. En remettant un petit peu de plus de mouvement, je pense que certaines de ces douleurs vont repartir, parce que c'est une conviction de plus en plus forte que j'ai aussi, c'est que il y a des moments où les douleurs que l'on a, des petites douleurs que l'on a, elles viennent aussi du fait que des fois on bouge pas assez. Oui, ça peut paraître paradoxal, mais c'est aussi ce que j'observe. Le fait, par exemple, dans cette période de confinement, je sais pas comment vous l'avez vécu, la reprise a été compliquée. Par exemple, j'ai eu mal directement au mollet, on va dire 2 semaines après la reprise, après le confinement, alors que pourtant c'était des séances toutes petites. Et puis je me suis rendu compte que d'être dans le canapé, dans des chaises, des choses comme ça, et ça provoquait plus de douleurs, notamment dans le dos, même les cuisses, vous voyez, des choses comme ça. Et puis le manque de soleil joue aussi sur la vitamine D, joue aussi sur l'énergie, et ça, voilà, fait partie des choses aussi que j'ai ressenti sur l'année. Si on reprend mes jours d'activité ramenés sur ces 38 semaines, on va dire 38, 37, 39 semaines, on va à peu près, si on calculait, d'activité, ça ferait quand même 4 entraînements par semaine. Oui, 4 entraînements par semaine. Alors bien entendu, il y a eu du 7 sur 7 au mois de juillet, puisque je n'ai loupé aucun jour, hein, j'avais fait mon défi de courir tous les jours au mois de juillet. Et ça fait 4 à 5 séances pendant la préparation marathon, et puis 2 à 3 séances le reste du temps. Voilà, c'est mon rythme. On va dire que 3 séances par semaine, en général, c'est mon rythme. Souvent, il y a 2 séances de club, plus une séance où je fais tout seul le dimanche, vous savez, la sortie longue à peu près, hein, c'est à peu près ça. Mais sauf qu'en préparation marathon, je rajoute une séance le mardi, hein, donc je vais faire le club le mercredi et le vendredi, et puis le dimanche, sortie longue, ou qui pourrait être le samedi. Mais cette année, en 2021, je vais un petit peu modifier ça, ça va un petit peu me changer, je vais changer mon programme, et ça, je vous raconterai ça en 2021. Donc voilà, en moyenne, je cours souvent, hein, c'est 3 fois par semaine, ça peut être 4, et c'est même monté à 5, et puis bien sûr, c'est monté à 7 sur le mois de juillet. Pour continuer ce bilan, je voulais vous faire un petit bilan des courses. Bon, bien sûr, bilan des courses, il sera beaucoup plus vite fait que les autres années. J'avais pourtant démarré l'année par 5 km sur la course des Rois à Chape, un temps de 20 minutes 27. Alors, j'étais un petit peu à court de forme à ce moment-là, parce que il y avait les fêtes, j'avais dit que je fais pas vraiment de pause pendant la période hivernale. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais couru la course des rois, la course de la Saint-Sylvestre, qui était autour du 30 décembre, et puis j'ai fait quelques jours, j'ai pas fait de pause, parce que j'aime bien courir le 1er janvier, et ensuite j'avais fait 2-3 jours de pause, comme ça, et puis j'ai fait une seule séance, un peu de vitesse, donc j'avais fait plutôt du lent et pas trop de vitesse sur le mois de sur la fin décembre, et sur début janvier j'ai fait qu'une séance, j'étais un petit peu à court, voilà, on va dire, et c'était pas mal quand même, parce que je me disais, ah bah tiens, cette année je pourrais passer sous les 20 minutes aux 5 km. J'en suis pas très loin, j'en suis pas si loin que ça, et je me suis dit, ça va le faire. Ensuite j'ai fait un trail en mars, c'était l'anniversaire de mon premier trail. Alors c'est pas l'anniversaire en tant que date particulière, enfin si, c'est le premier trail que j'ai fait, c'est le trail de Cournon. C'est le trail en fait qui a un petit peu lancé la découverte de ce que c'était, ou la redécouverte de ce que c'était un dossard, ou en tout cas de comment ça me motive. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à courir, et j'avais vu ce trail, qui est le départ, il est à combien, 2 km de la maison, il passe au bout de la rue, et je m'étais dit, tiens, je vais découvrir ce que c'est le trail, voir ce que c'est d'aller courir sur des chemins, voir ce que c'est un dossard. Et à l'époque, ça faisait quoi ? 3-4 mois que je courais, j'avais déjà perdu du poids avec le rééquilibrage alimentaire, j'avais du HIIT, j'ai du fitboxing. J'avais une discussion avec mon coach de fitboxing, de HIIT, et qui me demandait finalement si je voyais l'impact du HIIT et du fitboxing sur ma énergie, sur ma forme, sur comment j'étais. Et donc au mois de décembre, j'ai voulu recourir pour voir, alors que j'ai pas couru depuis très longtemps à ce moment-là, où j'avais essayé de courir un petit peu, on va dire sur l'été, vous voyez, comme ça. Et au mois de décembre, j'avais découvert que c'était beaucoup plus facile de courir parce que le HIIT et le fitboxing m'avaient redonné de l'énergie, m'avaient redonné de la force, m'avaient redonné ma condition physique, une vraie condition physique. Et donc à partir de là, j'ai commencé à courir un petit peu. Et donc j'arrivais à courir, on va dire, une fois par semaine. J'avais deux entraînements type HIIT, fitboxing, j'allais aussi à la piscine et puis je courais une fois par semaine. Et donc je m'étais inscrit sur ce trail, et c'était à l'époque un trail de 13 km, et j'avais dit, quand j'étais allé retirer mon dossard, j'ai dit, franchement, je sais pas si je suis capable de faire 13 km. Bon, ça, c'était mon premier trail. Et donc, l'an dernier, j'avais dit, je vais continuer chaque année, enfin après, c'est ce que j'ai pris comme décision, donc j'ai dit, chaque année, je vais refaire ce trail. Alors, il est situé en plein préparation marathon pour moi, donc je peux pas le faire à une vitesse qui était de dire je vais refaire le 13 en allant le plus vite que je peux ou quoi que ce soit. Il fallait que je me cale finalement sur une préparation marathon, donc je m'étais inscrit sur le 24 km qui correspondait pour moi finalement à une grosse sortie longue, hein, 2h20, voilà, avec dénivelé de 585 mètres. J'avais eu un petit peu de mal à finir, j'étais un petit peu cuit sur la fin, un petit peu, et là j'avais vu qu'il fallait que je travaille un petit peu mon alimentation, parce que je manquais de capacité de réserve, hein, tout simplement, qui était pas vraiment, c'était pas une question de capacité à courir, parce que la semaine d'avant j'avais déjà fait 24 km en sortie longue, et donc c'était passé sans problème, mais c'est juste le fait d'augmenter la vitesse, de revenir sur la vitesse, qui faisait que ça était un petit peu plus compliqué. Donc c'était ce trail là, voilà, je l'avais fait en me disant, il rentre dans ma préparation marathon, et puis c'est bien symboliquement d'avoir ce trail qui, je reviens à chaque fois sur le même trail. Alors il y a une année j'ai pas pu le faire, mais j'espère que cette année, en 2021, ce trail sera toujours là, on verra. Mais en tout cas, je trouve que symboliquement, c'est bien de revenir chaque année sur ce même trail que celui qui fut le premier, et de voir un petit peu comment je me sens, comment j'ai progressé, ou le courir de manière différente, etc. Je me rappelle notamment que l'année où j'ai fait le 13, la première année où j'ai fait le 13, quand je regardais ceux qui faisaient le 24, ou à l'époque c'était 24 ou 27, arriver, je me disais, mais moi je m'en sens pas capable de le faire. Et c'est vrai qu'à l'époque je me sentais pas capable au départ de courir le 13. J'avais réussi à courir le 13, et quand j'étais arrivé au bout du 13, quand je regardais ceux qui couraient le 24 ou 27, je me disais, je me sens pas capable de le faire. Et puis bien sûr, vous savez que au fil des années, petit à petit j'ai augmenté les distances, et que faire ce 24 là était finalement une étape qui était simple, puisque c'était juste une étape pour aller faire ensuite derrière 42 km et mon deuxième marathon. Bon, la suite a pas été comme prévu, hein. Le reste a été annulé. J'avais prévu un semi-marathon à Feur, qui était mon semi-préparation pour aller au marathon d'Albi fin avril. Et ben voilà, le marathon de Feur fin mars et le marathon d'Albi fin d'avril ont été annulés les deux, hein, reportés, enfin annulés et reportés, ou reportés et annulés, on prend dans le sens qu'on veut. Pour l'anecdote, en fait, le semi-marathon de Feur avait été repoussé au 1er novembre et était carrément annulé, donc là j'ai fait rembourser mon dossard, et le marathon d'Albi, j'ai mon dossard pour 2021, puisque j'ai gardé mon dossard pour 2021. En suivi derrière 8 semaines de confinement, donc ça je l'avais dit, une reprise en douceur, une douleur au mollet, voilà, donc qui m'a un petit peu freiné. Et puis, bon, j'avais fini par arriver à reprendre, à retrouver un petit peu de rythme. Et en juillet, j'ai fait le 5 km virtuel de la Fédération Française. Vous savez, c'est course virtuelle, et puis là, il y avait un classement national, un nouvel index running, etc. Bref, j'ai pas trop regardé cet index, en tout cas mon temps, 21 minutes 58. Très 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 large, loin hein, de mon temps de 5 km de chape, mais il faut dire aussi que c'est couru tout seul, c'était moins plat, c'est pas les mêmes conditions, il n'y a pas l'excitation de la course, etc. Et puis bon, il y avait moins de préparation, moins d'entraînement et moins de travail de vitesse. Derrière, j'ai embrayé sur ce fameux mois de juillet avec de la course quotidienne, et vraiment... Ce fut un mois super chouette, vraiment, faut le dire, hein, courir tous les jours comme ça, aller à la recherche de nouveaux terrains, combattre un petit peu une forme d'ennui, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais tu vas t'ennuyer, tu vas aller courir tous les jours, est-ce que c'est pas pénible, est-ce que c'est pas lassant ou quoi que ce soit, tu vas être surfatigué ou quoi que ce soit. Et non, j'ai pas eu de fatigue. J'ai alterné les distances, il y a des jours j'allais courir que 2-3 km, il y a des jours j'ai fait 14, il y a des jours j'en ai fait 20 et quelques. Bref, j'ai trouvé dans cette pratique là aussi une nouvelle forme de course qui montrait que en courant plus j'étais pas plus fatigué, qu'en fait la fatigue elle vient pas que du volume, elle vient pas que du nombre de séances, elle vient de plein d'éléments, et notamment aussi de toute la préparation physique qu'on peut faire avant pendant l'année hein, quand je faisais du fitboxing, il y avait des choses comme des squats, des fentes, il y avait des abdos, des choses comme ça, beaucoup d'intensité qui font aussi que ça m'aidait à courir mieux, à courir plus vite, à courir en étant moins fatigué sur certaines séances. Et en fait, je me rends compte que depuis que je n'ai plus l'occasion de le faire, parce que je peux plus aller à ces entraînements-là qui étaient le lundi, qui était le jeudi, enfin il y en avait le mardi si je voulais, il aurait pu y en avoir le mercredi mais ça tombait le jour du running, il pourrait y en avoir le jeudi, enfin bref, mais après ça faisait beaucoup de jours, ça faisait en fait d'avoir des entraînements tous les jours, et moi ce qui m'intéresse c'est aussi de profiter de ma fille, profiter de ma famille, d'être avec ma femme et ma fille à la maison, donc c'est pas d'aller faire du sport tous les soirs et de jamais les voir, donc je peux pas tout faire, je peux pas tous les faire, et donc je me rends compte quand même qu'il y a un truc sur lequel il va falloir que je travaille, qu'il va falloir que j'arrive à un petit truc à trouver. C'est pour ça que je m'étais inscrit en salle de sport aussi, c'était aussi pour avoir des séances muscu, mais aussi pouvoir faire du tapis, pouvoir faire des marches, des choses comme ça, pour pouvoir placer des séances un petit peu différentes et travailler un petit peu différemment aussi pour être mieux, hein, tout simplement. Mais bref, ce mois de juillet m'a montré aussi, voilà, que j'étais capable de courir tous les jours. J'avais un doute au début, hein. Franchement, j'avais un doute. Est-ce que je suis capable de courir tous les jours? Est-ce que je vais tenir tous les jours? Et tous les matins, donc je partais ces entours-là, hein, autour de 6h, 6h, 7h, des choses comme ça. Des fois des séances un peu plus courtes, des fois des séances un peu plus longues. Toujours mon but du jeu, d'essayer d'aller voir où est-ce que je pouvais réveiller le soleil. Et l'une de mes plus belles photos de l'année d'ailleurs, de lever de soleil, a été prise pendant ce mois de juillet. Parce qu'il y a des couleurs qui sont aussi fabuleuses certains jours, avant que la chaleur soit trop importante. Derrière, ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai embrayé ensuite sur, on est parti en vacances, et j'ai embrayé surtout sur la préparation du swim run. Alors la préparation du swim run, sur le côté course à pied, c'était pas très inquiétant. Le swim run était le 13 septembre, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est la natation. Comment j'allais faire pour nager ces distances en natation? Ça, c'était ma grande question. Et donc, j'allais à la piscine déjà au mois de juillet. Donc, je combinais course le matin et natation souvent sur la pause déjeuner. C'était un bon rythme, hein, c'est un rythme plutôt sympa. Et puis, ben, la mer, un jour sur deux. Un jour, j'allais nager en mer et un jour, je courais. Et puis, il y a des jours où je faisais les deux, hein, je faisais une alternance. J'ai même fait des transitions pour voir un petit peu ce que ça faisait de nager, de courir, de nager, de courir, de nager, de courir, etc. Bon, je me suis rendu compte que cet entraînement-là n'avait rien à voir avec le jour de la course, parce que le 13 septembre, quand il a fallu se mettre à l'eau après avoir couru, et puis avec les gens autour, et puis avec l'ami Hermano qui était juste devant, avec le rythme, etc., le grand bouillon du 13 septembre sur le premier plongeon dans l'eau, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que tu fous dans cette galère? Bon, après, honnêtement, je vais vous garantir un truc, c'est que c'est probablement mon meilleur souvenir de l'année. J'ai dit l'autre jour dans mes stories Instagram, quand je regarde un petit peu la course, etc., ce moment de course avec Hermano, on a vraiment passé une chouette journée. C'était la première fois qu'on se voyait. On avait fait un épisode, vous savez, un épisode avant-après, dans lequel on avait discuté, on avait regardé par où on passe, comment ça se passe, etc. Et on s'était dit ce jour-là, et si on recommençait? Et je vais vous annoncer quelque chose, oui, on va recommencer. Mais ça, je vous en reparlerai un autre jour, dans un autre épisode. Ensuite, j'avais enchaîné donc ce fameux trail Castelpontin, mon trail d'anniversaire le 4 octobre. Mon anniversaire, c'est le 2 octobre. Hein. Bon, mais trouver une course le 2 octobre quand ça tombe un jeudi ou un vendredi, c'est pas si facile que ça. C'est d'ailleurs un de mes enjeux que j'avais cherché quand j'avais voulu faire mon marathon pour mes 42 ans. Au début, je voulais faire un marathon pile le jour de mon anniversaire, pile le 2 octobre. À l'époque, j'en avais pas trouvé. Je m'étais offert une année, un 10 km qui tombait pile le 2 octobre, le jour de mon anniversaire. Mais cette année-là, cette année, en 2020, bon, bah, la course la plus proche était le Trail Castelpontin. Remarquez que j'aurais pu me faire l'équivalent d'aller courir pour moi. Je pourrais me faire mon défi du 2 octobre d'aller faire un 10 km chaque 2 octobre pour fêter ça. Voilà. Vous voyez, on pourrait faire un truc comme ça. Non, cette année, j'avais décidé donc de faire le Trail Castelpontin, 27 km, du dénivelé, une ambiance un peu particulière, bien sûr, parce que tout le monde avait le masque au départ, masque obligatoire au départ, masque obligatoire à l'arrivée, c'est-à-dire que quand on arrivait même après avoir passé la ligne d'arrivée, ils demandaient de remettre le masque pour qu'on enlève ensuite les dossards, leur remettre les dossards, etc. avec les puces. Bref, bon, c'était une ambiance un peu particulière, il n'y avait pas de discussion, de dernier ravito à la fin, vous savez, quand on refait le monde et autres, parce que bah on partait avec un petit sac, chacun dans son coin, en mangeant sa petite compote qui était offerte par le supermarché du coin. Mais c'était sympa. Vraiment sympa qu'ils arrivent à faire cette course, qu'ils arrivent à l'organiser, qu'ils arrivent à maintenir cette course, et je pense que toutes les personnes qui ont participé ont vraiment beaucoup apprécié. Et là, il faut vraiment remercier les organisateurs des courses qui ont réussi à maintenir des courses. On en avait parlé dans l'épisode avec Apiron, avec Leïla d'Apiron aussi, sur comment ils arrivent, eux aussi, ils ont réussi à organiser des courses. Certains n'ont pas réussi, certains l'ont fait, jugent que finalement, ils peuvent pas le faire par rapport aux bénévoles, par rapport aux conditions qui sont trop compliqué. Et puis bien sûr, il y a des incertitudes, il y a de telles incertitudes que c'est compliqué de se lancer dans la préparation d'une course, d'avoir des sponsors, des partenaires, etc. Alors, quand on ne sait pas si on pourra faire la course ou pas, les autorisations, quelles seront les autorisations, etc. Et c'est vrai que j'avais apprécié ce jour-là que les organisateurs arrivent à maintenir cette course, et je pense que tous ceux d'entre nous qui ont réussi à participer à quelques courses, quelques dossards dans l'année, ont apprécié tous les efforts qu'ont fait les organisateurs pour arriver à maintenir ces courses, pour arriver à faire en sorte qu'elles se déroulent quand même. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on les remercie tous, parce que c'est vraiment compliqué déjà d'organiser des courses en temps normal, mais c'était encore plus compliqué avec les conditions dans lesquelles on devait les faire cette année. Et puis ensuite, donc il y a eu ma grande pause, les crosses étaient annulées, hein, ils ont été annulés, reportés ou annulés, enfin... Bref, j'avais prévu 2 ou 3 crosses hein, sur la fin de l'année. Ils ont été tous les uns derrière les autres. Là, ils sautaient les uns derrière les autres. Bon, c'est dommage. Hein, le cross était une épreuve un peu particulière qui, pour le mental, est très 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 forte. Elle permet d'aller puiser dans des ressources qu'on n'a pas, puisque le problème du cross, c'est que finalement il y a, enfin le problème ou le bénéfice du cross, c'est que le terrain est instable, le terrain est vif, on va dire, il y a des virages, il y a des montées, des petites montées, des petits raidillons, des petites accélérations, et ça va toujours à fond. Et puis c'est de la course en troupe, en meute, en troupeau, je sais pas comment le dire, mais tout le monde sur la ligne de départ, ça part au coup de feu, bam, et le premier arrivé a gagné. Alors bien sûr, le premier, moi, il m'a mis sur un, il m'a mis 2 tours. Ou 2 ou 3 tours, parce que c'est des tours de 1,2 km, des choses comme ça. Donc il m'a mis 1 ou 2 tours, et sur un autre, j'ai lutté pour qu'il ne mette pas un tour, mais il m'a quand même mis un tour. Bon, bah voilà, c'est comme ça, hein, c'est la différence de vitesse. Mais le premier, il est aussi champion de France. Bon, voilà, on peut se dire qu'il y a un bout d'un moment, on voit aussi la différence avec ce que moi, vous savez que j'appelais longtemps les vrais coureurs, hein, les vrais coureurs, ceux qui courent depuis longtemps, etc. Et moi qui me sentais pas être un vrai coureur. Bon, dans cette année 2020, j'ai quand même beaucoup progressé sur cette vision de ce qu'est un vrai coureur. Un vrai coureur, c'est quelqu'un qui court, c'est pas c'est tout. Voilà, on est tous des vrais coureurs du moment qu'on enfile nos baskets et qu'on va courir. Et ça, c'est un des gros progrès que j'ai fait sur l'année, c'est d'avoir ce changement de vision. De là dire que je suis un athlète, c'est autre chose. En tout cas, considérer que je suis un coureur, c'est déjà le premier élément. Et si vous avez du mal à vous considérer comme un coureur, dites-vous que le simple fait que vous preniez vos baskets et que vous allez courir régulièrement, vous êtes un coureur. Et un coureur, c'est quelqu'un qui court. Arrêtons de se mettre des étiquettes, arrêtons de prendre l'étiquette, de dire « est-ce que je suis un coureur ou pas un coureur ?» Non. Restons sur le verbe, vous courez, vous êtes un coureur, mais le principal, c'est de courir. bouger, courir, faire du sport, se bouger, c'est vraiment ça hein, que je voulais vous dire à travers ces épisodes de Kilomètre 42. Et puis bon, j'ai fini l'année par un petit défi lancé par la communauté, 5 km du Hamster Running Club, 23-21, voyez comme quoi dans l'année bah, j'ai ralenti, j'ai perdu, bah oui, 3 minutes sur mon année. Bon là encore, hein, soyons honnêtes, sur le mois de décembre j'ai fait plus de PPG que de course à pied, pas du tout de travail de vitesse ou très peu d'accélération, donc c'était un petit peu logique hein, que ce soit un petit peu compliqué. Et puis j'ai fait un 10 km. Là aussi c'était pour le défi de la communauté. 51 minutes 45 en parcours trail avec 145 mètres de dénivelé, de la gadoue, des conditions qui n'étaient pas terribles au moment où je suis allé courir. C'est l'un des rares jours où je suis allé courir en début d'après-midi. Dans l'année, si on regarde les jours où je suis allé courir en début d'après-midi, ils sont très rares. D'habitude, je préfère faire la sieste à cette heure-là. Et je sais pourquoi. Je sais pourquoi je préfère aller courir le matin qu'en début d'après-midi. C'est pas mon créneau à moi. Mais c'est aussi un bon moyen. C'est aussi, faudra aussi que je m'habitue d'aller courir dans ces moments-là, parce que sur les épreuves que je vise, vous savez, le projet de courir, de faire un Ironman en 2023 et puis d'allonger un peu les distances, ben courir après avoir mangé, après avoir pris des collations un peu plus importantes des fois. Courir dans ces moments où j'ai pas l'habitude de courir, ça fait partie aussi finalement de l'entraînement, parce que il y a des, pour allonger les distances, pour allonger le type d'épreuve, pour changer de type d'épreuve, il faudra aussi que j'aille courir dans des moments où je n'ai pas l'habitude de le faire. Voilà, donc c'est aussi un bon moyen, un bon entraînement. C'est vrai que la plupart des courses sont le matin, ou alors il y a des courses de soir. Et cette année, j'ai pas eu de courses nocturnes comme je fais d'habitude, parce que les autres années, j'ai toujours des courses nocturnes. J'adore les courses nocturnes. Et les courses nocturnes, la plus grande difficulté que j'avais toujours au départ, c'était l'alimentation. Quand on a une course qui part à 20h, comment manger quand on part pour une course à 20h, à quelle heure il faut manger, est-ce qu'on prend une collation, comment on gère tout ça, j'avais toujours eu du mal. Et petit à petit, à force de faire des courses nocturnes, j'avais fini par trouver aussi à quelle heure je dois manger, qu'est-ce que je dois manger, comment je fais mon repas, comment je m'alimente. Et ben voilà, ça fait partie aussi de trouver des astuces pour courir l'après-midi, aller courir l'après-midi. Les crosses hein, aussi font partie des courses qui se déroulent l'après-midi. Dans un créneau, moi souvent j'avais des départs qui étaient autour de 15h, vous voyez, dans ces zones-là, parce qu'en plein hiver, comme il fait toujours pas très tôt, pas très tard, on va dire, bah les courses, en général, il faut qu'à 17h tout soit plié, hein, voilà, donc en général les courses c'est autour de 15h, entre 15h et 16h. Bon là aussi c'est encore des moments, hein, des créneaux par rapport à l'alimentation qui sont aussi un peu plus compliqués à trouver, mais ça fait partie aussi de l'entraînement, hein, de trouver finalement des... Comment on se prépare pour aller courir à 2h de l'après-midi, pour aller courir à 15h ou 16h, quand on a l'habitude d'aller courir le matin tôt, à jeun, qu'on aime bien ces moments-là d'aller courir plutôt, courir tôt le matin, et ben ça fait partie aussi de ce qu'on doit travailler. Bon, maintenant j'en ai fini sur la partie sportive hein, des choses, on va dire. On va attaquer aussi un petit bilan du podcast en lui-même, et notamment en termes d'épisodes. Je vous ai posé une question, j'ai posé la question dans la communauté, j'ai posé la question sur, j'ai mis un lien aussi sur Instagram, je vous ai demandé quels étaient vos épisodes préférés. Et j'ai eu beaucoup de votes, et j'ai eu beaucoup de votes qui sont allés, alors il y a des votes un par-ci, un par-là, etc. On peut dire que tous les épisodes ont eu des votes. Tous les épisodes ont eu des votes. Donc, je sais aussi, j'ai eu des messages de gens qui me disaient « J'ai eu du mal à les départager, c'est un peu compliqué d'arriver à les départager, etc. » Mais honnêtement, il y a un épisode qui l'a remporté, c'est l'épisode 57, c'est l'épisode avec Johan Stuck. Là, cet épisode-là, vraiment, il a remporté les suffrages. Il est largement devant, vraiment largement devant, et ça se comprend. Hein. Johan Stuck avait été très généreux dans cet épisode, il avait donné beaucoup de conseils, il avait beaucoup partagé, et puis il a un parcours aussi qui est bah, qui nous ressemble à nous, les hamsters. Hein. Lui aussi, il a connu ses problèmes de poids, de pas faire de sport, de se remettre au sport, etc. Et donc, c'était chouette de l'avoir, c'était vraiment un chouette épisode qu'on avait enregistré. Il était, je me rappelle, sur sa terrasse, on entend les cigales derrière, etc. Il avait donné beaucoup de conseils, y compris des conseils très précis, puis il avait parlé aussi de ses allures, de travail d'allure, etc. Donc si vous l'avez pas écouté, c'est l'épisode 57. Et puis il y a un autre épisode qui arrive pas très loin derrière, mais bon, un petit peu quand même derrière, c'est l'épisode avec le doc Denis Boucher. Alors cet épisode avec le doc Denis Boucher, je sais que c'est peut-être celui qui a généré le plus de réactions, le plus de commentaires, le plus de surprises, parce que, bien entendu, bah, il a sa manière de parler, il a son langage, il a sa vision des choses, et que ça a bougé beaucoup de, y compris les certitudes de certains qui m'ont dit, oh, Alors là, je vois les choses différemment. J'ai eu des commentaires, j'ai eu des messages privés qui m'ont été envoyés en me disant, là, j'ai pris une claque, là, ça me fait revoir un petit peu ce que je fais, etc. Et notamment le passage où il dit que on s'épuise en courant, qu'on peut grossir en courant parce que finalement, on n'absorbe pas les bonnes quantités, que notre corps, il est à la recherche finalement de faire le plein sur le plan alimentaire parce qu'on l'a épuisé, etc. Vous savez, tout ce discours-là a vraiment tapé dans le mille chez certains et j'ai eu beaucoup beaucoup de réactions là-dessus. C'est pas l'épisode préféré au sens des votes, mais en tout cas c'est l'épisode qui a pour moi, je pense, généré le plus de réactions et de commentaires, en tout cas dans les messages privés que j'avais reçus sur Instagram, etc. Et puis deux épisodes qui arrivent à égalité derrière, c'est dans les derniers épisodes de l'année, hein, les épisodes sur les bienfaits du miel avec Leïla de Happy Run. Là, je pense, hein, que vous avez été nombreux à découvrir les bienfaits du miel. J'en parlais du miel, hein, j'en ai parlé, je disais que j'en mettais dans mes boissons d'effort, elle avait redonné la recette de la boisson d'effort telle que moi je l'ai prise, et j'ai couru le marathon de Paris avec cette boisson d'effort dont elle donne la recette, et puis c'est aussi celle que je mets dans mes gourdes pour les trails, etc. Avec du miel, avec un petit peu de l'eau, du citron, un peu d'infusion, ou du thé, ou des choses comme ça vous variez, mais... Elle a aussi expliqué les bienfaits du miel, beaucoup d'éléments sur aussi le choix du miel, etc. Et je sais que vous avez été un certain nombre à aller acheter du miel. Alors certains chez vos apiculteurs et puis aussi certains directement chez Apiron. Parce que leurs petits sticks de miel là, qui sont conditionnés finalement comme des, de manière plate, hein, que c'est facile à mettre dans une sac, dans la poche, etc. J'en ai toujours, toujours, toujours dans mes poches maintenant. Quand je vais courir, il y en a toujours une. Et puis avant les entraînements de vitesse, j'ai testé sur les sorties longues, j'ai testé, etc. Et donc je sais que je suis pas le seul à avoir testé parce que j'ai des retours par ce biais-là. Et ça fait plaisir aussi de mettre en avant des marques comme ça locales, hein, des petite marque, hein, quand on parle de fait en France, etc. Là, on est vraiment dans des artisans coureurs, hein, et ça faisait vraiment plaisir de les mettre en avant. Et puis, l'autre épisode qui a égalité avec cet épisode 68, c'est l'épisode 77. C'est l'épisode Courir en sandales avec Elodie, qui est un des derniers épisodes de l'année. Hein. Sur le minimalisme, sur le fait comment elle court en sandales, comment elle court ses défis qu'elle se lance, etc. Et puis ce parcours qu'elle a par rapport à son opération du dos, par rapport aux complications qu'elle a pu avoir. Là aussi, c'est un épisode qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retentissement, en tout cas dans mes commentaires, dans les retours, dans les remarques, dans les partages. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le podcast par le biais de cet épisode-là, par le biais en fait de l'approche minimaliste, qui connaissaient pas le podcast, mais qui ont écouté le podcast par le biais de cette approche minimaliste, et qui ont ensuite découvert les autres épisodes. Vous, je vous souhaite aussi... la bienvenue si c'était pas encore fait, parce que finalement c'était un des épisodes. Il y a deux épisodes tout simplement. Hein. Il y a eu l'épisode sur la liste de Noël et la semaine dernière, et puis c'était l'épisode de la semaine d'avant, donc c'est un épisode de décembre. C'est aussi pour ça, hein, que je pense qu'il reste bien dans les têtes. Je pense, hein, qu'il y aura plus de coureurs minimalistes, d'auditeurs minimalistes, coureurs minimalistes en 2021, aussi en grande partie avec cet épisode-là. Et puis je sais aussi que le bracelet rouge dont on avait parlé, il y en a certains qui les ont achetés. Voilà. Donc je vois aussi un petit peu l'impact, hein, par rapport aux retours, aux commentaires, aux essais que vous pouvez faire. Je vois aussi que ce sont vos épisodes préférés, mais qu'il y a aussi une action qui se passe derrière, il y a aussi des retours, des réactions qui se passent derrière. Et puis, je voulais vous donner, parce que là, je vous ai donné les résultats des votes, en fait, hein, comment vous avez voté. On va dire que c'est un petit peu comme les votes des festivals de cinéma, etc. Mais statistiquement, c'est pas ces épisodes-là forcément qui ont tous eu qui ont eu ce succès-là. Et alors, j'ai regardé un peu les téléchargements des écoutes, etc. Et donc l'épisode qui vient en premier sur les écoutes, c'est pas Johan Stuck, hein, c'est Denis Boucher. Oui, bon, on va dire on n'est pas loin, hein, on inverse un peu presque le podium, mais en fait on n'inverse pas le podium parce que Johan Stuck en termes de téléchargement n'est que troisième. Alors, qui c'est qui est venu se greffer là en plein milieu des téléchargements? Eh ben, c'est un épisode de février que j'avais fait, qui s'appelle Courir pour maigrir ou maigrir pour courir. C'était mon parcours et vos questions. Vous avez demandé de me poser des questions sur mon parcours, sur ma perte de poids, sur mon alimentation, etc. Et c'est fait partie, voilà, si on prend les trois épisodes qui ont été le plus téléchargés, donc le plus écoutés, c'est donc le doc Denis Boucher, courir pour maigrir ou maigrir pour courir en février et cet épisode avec Johan Stuck. Et puis derrière, il y a un autre épisode aussi solo qui avec là encore une FAQ avec des réponses à vos questions sur l'alimentation, les courses virtuelles, qui est un épisode qui est arrivé plus tard dans l'année, qui était un épisode 55. On est plutôt sur le mois de juin-juillet dans ces zones-là. Et puis il y a un dernier épisode pour en faire on va faire un top 5 qui a eu beaucoup de succès en termes de téléchargement et qui en a eu aussi, là ça rentre pas dans mon compte, mais qui en a eu aussi sur la chaîne YouTube, parce que j'avais mis la vidéo sur la chaîne YouTube de Hamster Running Club. C'est l'épisode avec Sherwin de Altra, évoluer vers une foulée naturelle, qui là aussi je sais vous avez pour beaucoup, hein, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui ont voulu essayer de voir aussi ce que c'était Altra, comment on pouvait courir Altra, mais aussi la logique de la foulée naturelle, la logique de courir plus minimaliste, etc. La logique aussi de revenir vers une foulée, de voir aussi comment fonctionne le corps. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que l'un des épisodes préférés, c'était courir minimaliste en sandales avec Elodie et la foulée naturelle avec Altra. On est un petit peu dans cette logique-là, et vous savez, moi, je suis un farouche défenseur du minimalisme, de dire que finalement notre pied est un très bon outil, mais que bien sûr il faut aussi l'aider, hein. C'est-à-dire que il y a la musculation, il y a l'entraînement, il y a lui redonner l'habitude de courir comme ça. On va pas s'improviser courir en sandales ou en five fingers comme ça du jour au lendemain. Si vous avez des chaussures et des grosses semelles et beaucoup de drops, courir en ultra du jour au lendemain comme ça, c'est plutôt la cata, parce que vous allez sentir tout de suite les douleurs. Et je sais que certains font l'expérience où ils se disent je vais courir 40 minutes avec mes nouvelles chaussures ultra ou des chaussures zéro drop, et puis que pendant 5-6 jours ils ont mal partout parce que c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Mais c'est aussi des sujets sur lesquels on va revenir. Et d'ailleurs, c'est un de mes regrets de l'année. J'avais invité une personne sur vraiment cette thématique-là et qui a refusé parce qu'il dit que il voulait pas venir participer sur d'autres contenus que les siens. Et ça, je regrette, parce que vraiment, je pense qu'on aurait appris d'autres choses. Mais je vous le dis, en 2021, je reviendrai à la charge et j'essaierai de retourner à la charge pour voir si j'arrive à le convaincre de venir. Parce que vraiment, je pense que ça fait partie des sujets que vous appréciez et qui sont aussi, qui font partie des sujets qui sont utiles, intéressants, parce que ça permet aussi d'avoir une vision un petit peu différente par rapport au marketing, par rapport à ce que nous disent les marques sur ce qui serait bien, ce qui serait pas bien, etc. C'est bien aussi d'avoir des gens qui pratiquent, qui ont le retour de leur pratique, de comment eux, ils évoluent, comment ils ont choisi leurs chaussures, comment ils choisissent, comment ils s'entraînent, quel est leur parcours pour arriver à le faire. Voilà, donc ça c'était les épisodes qui avaient le plus de succès en termes de téléchargement. Et puis bon, bah vous savez, il y a toujours le coup de cœur du jury, et le coup de cœur du jury, bah ce sont mes épisodes préférés à moi. Et mes épisodes préférés à moi, bon bien sûr, Johan Stuck, c'est un peu spécial, voilà, ça fait partie des épisodes. Johan Stuck, ça fait un bout de temps que je voulais l'avoir, et je suis vraiment très 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 content de cet épisode-là. Et donc, vraiment, fait partie de mes chouchous. Mais alors, mes épisodes chouchous, ce sont tous les épisodes Dernier Ravito, avec Thibaut, Mathieu, Stéphane, Le Taz. Ce sont ces épisodes où, finalement, il n'y a pas vraiment de grosse thématique au départ, mais on peut y rajouter dedans Elodie, on peut rajouter dedans Anna Couton, on peut rajouter dedans le trail en famille, cette aventure sur le comment ils avaient parcouru entre le père, la fille, le neveu. Ils ont parcouru l'Auvergne, etc., pour les enfants du CHU de l'hôpital à Clermont. Voilà, ça fait partie des épisodes que j'ai adoré. Dans lequel on dépasse le strict domaine de la course. Alors, avec certains, on s'est concentré plus sur la course, certains, on s'est concentré plus sur leurs difficultés, certains sur leur parcours, certains sur leur vision de la course, certains sur une course en particulier, comme Stéphane avec son ultra trail, avec son parcours, avec comment le hamster devient ultra trailer, hein, 113 bandes quand même, et qu'est-ce que ça fait d'aller courir comme ça sur les montagnes, et comment on va vers d'autres parcours. Et puis avec Anna, on était plutôt sur le domaine du parcours de vie, hein, la reconversion. Elodie, on n'a pas parlé que de chaussures, que de course. Il y a beaucoup d'autres choses qui jouent là-dedans. Ce furent des épisodes vraiment géniaux. Et je vous remercie tous ceux qui ont accepté l'invitation de venir discuter avec moi de votre pratique. Merci d'avoir pris le temps de le faire, d'avoir partagé toutes ces informations que vous avez partagées, parce que c'est aussi comme ça que l'on progresse, que l'on court. Et je sais aussi, parce que j'ai eu beaucoup de messages des auditeurs, que les auditeurs ont beaucoup apprécié, vous avez beaucoup apprécié ces épisodes-là, parce que ça donne aussi une vision, j'ai envie de dire, très décomplexante en plus de la course. Quand on regarde la course à pied, si on regarde bien sûr les stars du domaine, si on regarde les sportifs professionnels, si on regarde la publicité, etc., on peut être complexé par leur manière de courir, par les temps, par plein de choses qu'ils font. Et en fait, ça fait du bien d'entendre juste des coureurs normaux. Voilà, des coureurs normaux. Et c'est, vous savez, c'est un commentaire que j'avais reçu sur iTunes, que j'avais lu sur, enfin, sur Apple Podcast maintenant, qui disait Bertrand, c'est un coureur normal, qui nous montre qu'un coureur normal peut aller courir un marathon, peut se lancer dans des défis, etc. Oui, Kilomètre 42, c'est pas le podcast d'un athlète, d'un entraîneur pro ou quoi que ce soit, c'est le podcast d'un coureur normal, oui, d'un coureur normal, mais qui va aller se lancer dans des défis, qui va se dire que il peut lui aussi courir un marathon, que lui aussi peut faire des distances sur lesquelles il n'avait pas... conscience qu'il pouvait aller, et c'est ça aussi, hein, le fait d'aller faire des derniers ravitaux, d'aller discuter avec d'autres coureurs, j'ai envie de dire normaux, qui font partie des stars du domaine, etc., pour voir aussi quelle est leur pratique. Et puis il y a un dernier épisode, dans mes épisodes préférés, c'est un épisode de l'été, c'est l'épisode que j'ai fait en courant. Vous savez, j'étais parti un matin du mois d'août, hein, comme ça, avec mon micro-cravate, j'étais parti courir au bord de la mer. On était en vacances à Gruissant, et c'était ce mercredi-là, j'ai dit, tiens, j'ai pas d'épisode, je voudrais bien faire un épisode quand même, j'avais plus de stock d'invités, etc., parce que j'avais fait, avant de partir, j'avais pas pu tous les faire, et il m'en restait un quand même que j'avais envie de faire, et j'ai dit, tiens, si je partais en courant, j'étais parti, allez, j'ai couru quoi, presque une heure, je crois, en discutant sur l'endurance mentale, sur plein de choses. Alors, bien sûr, il y a ceux qui ont trouvé que cet épisode-là, si ils étaient à leur bureau, il y avait les bruits, alors il y a le bruit un peu du souffle, il y a le bruit des chaussures, il y a le bruit de la mer, par moment, oui, vous avez entendu les mouettes à l'intérieur, et c'était pas forcément facile à écouter quand on était à son bureau, mais en tout cas, je sais aussi, dans les votes, dans les remarques, que ça fait partie des épisodes presque mythiques pour certains, qui m'ont dit, ouais, cet épisode-là, vraiment, c'est ce que j'ai adoré par-dessus tout, je fais un petit clin d'œil, il se reconnaîtra, celui qui m'a dit qu'il avait écouté même plusieurs fois, il fait partie des épisodes chouchou, et moi aussi, c'est un épisode chouchou, et parce que je m'étais longtemps posé la question de savoir s'il était possible de faire ou pas un épisode en courant, et j'en ai entendu d'autres podcasteurs qui l'avaient fait. J'avais déjà entendu ce truc-là. Il m'a dit, est-ce que moi, un jour, je serais capable d'avoir l'endurance, la capacité de le faire? Et ben, ce jour-là, je m'étais prouvé que oui, j'étais capable de le faire. Et c'était mon petit défi aussi à moi, vous voyez. C'est des mini-défis dans mon année. Et donc, j'étais content d'arriver à le faire comme ça. Enfin, je peux pas terminer cet épisode bilan sans faire un bilan, finalement, du podcast dans sa globalité, mais aussi de la communauté. Et puis, vraiment, en fait, les statistiques augmentent. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages. J'ai reçu un nombre de messages, de commentaires, mais vraiment magiques. Et vous étiez un certain nombre aussi à rejoindre Patreon, que j'avais lancé, vous savez, qui permet de financer les épisodes de podcast, mais qui finance... Ça finance plus que le podcast finalement, parce que ça finance aussi ma vie sportive qui est en train de se créer, et vous adhérez à ce concept-là, et je vous en remercie. Vous savez qu'avec Patreon, il y a un épisode privé tous les lundis, mon journal d'entraînement, puis je vous mets les épisodes sans la pub, et puis les épisodes en avance, et je donne des petites infos, des news un petit peu en priorité aussi avant, etc. Et donc là, vous avez été un certain nombre à rejoindre cette idée-là, et puis vous êtes encore... plus nombreux à avoir laissé des commentaires, encore plus nombreux à avoir rejoint le Hamsters Running Club, qui est la communauté privée. Vous la trouverez pas sur Facebook, vous la trouverez pas... elle est planquée, voilà, elle est planquée, il y a des liens, hein, bien sûr, il y a des liens dans les notes de cet épisode. C'est une communauté bienveillante, elle est à l'abri des algorithmes, il y a des... on est... petit club de hamsters, voilà. Chacun à sa vitesse, chacun court comme il court, chacun fait son défi tel qu'il l'entend. Pour certains, le défi, c'est d'arriver à courir, hein, courir 5 km. Pour certains, c'est courir une heure. Pour d'autres, c'est de se lancer dans du triathlon. Pour d'autres, c'est d'arriver à nager. Pour d'autres, c'est de passer au minimaliste. Pour d'autres, c'est de courir plus d'une fois par semaine. Pour d'autres, c'est juste d'arriver à prendre le temps de courir. Pour d'autres, c'est de courir avec ses enfants, etc. Chacun a sa pratique. On n'est pas dans du domaine des athlètes de haut niveau, etc. Alors bien sûr, il y a les hamsters rapides, il y a les hamsters endurants, il y a les hamsters triathlètes, il y a les hamsters qui se lancent des sacrés gros défis, puisque je peux vous garantir que dedans, il y en a certains qui ont un sacré volume de course, hein, qui est assez impressionnant. Et puis, il y a les hamsters débutants. Et en fait, l'idée, c'est qu'on partage tous dedans des conseils avec de la bienveillance. On se lance des petits défis. Et je remercie encore Knack en Vrac qui avait lancé le défi du solstice. Vraiment, il y a des... C'est plein de petites discussions et puis il y a des choses qui se créent autour, etc. Ça, c'est vraiment chouette et je voulais vraiment tous vous remercier. J'ai reçu aussi des dizaines de messages cette année, j'ai reçu des témoignages et alors, notamment, ma femme m'a fait une surprise, m'a fait un calendrier de l'Avent avec, dedans, j'avais des messages par les membres du Hamsters Running Club et là, il y avait Hermano qui était aussi dans le coup et puis Sylvain aussi qui était dans le coup et qui m'ont... Vraiment, vous voyez, là, avant d'enregistrer, j'en ai encore lu un, parce que, en fait, il y avait plus que ça dépassait le 24 ou le 25, et j'en ai encore lu un, et je me dis, waouh, mais vraiment, je pensais pas, que ce podcast avait autant d'importance pour vous, hein, qui m'écoutez, puisque moi, c'est vrai que je le fais avec tout mon cœur et ma sincérité, vous voyez. J'ai commencé, en fait, ce podcast en racontant mon histoire de comment je voulais courir un marathon, comment moi, qui n'avais pas couru plus que 10, 12, 13 kilomètres comme ça, vous voyez, ce fameux trail de 13 kilomètres qui était probablement le plus long de ma vie à ce moment-là, j'avais un petit peu allongé les distances, mais pas beaucoup, je crois pas avoir dépassé les 20 kilomètres à ce moment-là, comment je me lance dans un marathon, et comment je me dis, mais comment je vais arriver à courir un marathon qui me semble à distance le truc impossible à faire. Et pourtant, oui, hein, ça fait partie des choses à faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans mes épisodes chouchou, il y a bien sûr Red One. Oh là là, Red One. Vraiment, en 2021, j'espère que Red One va arriver à faire son défi de courir le marathon. Celui-là aussi, hein, franchement, ça fait partie des invités qui étaient extraordinaires. Je l'avais pas cité, mais franchement, je peux pas payer de Red One dans l'histoire. Et donc oui, c'est pas certain d'arriver à faire ce marathon. Et puis vous savez même d'ailleurs que le premier marathon, je m'étais blessé 15 jours avant de le courir, donc j'avais repoussé, etc. Donc pour moi, c'était juste raconter cette histoire-là, en fait, au départ. Le Kilomètre 42, c'est raconter cette histoire-là. Et en fait, quand je regarde les commentaires, quand je regarde les messages, quand je regarde les messages que j'ai dans mon calendrier de l'avant, ça montre en fait que ce parcours, ces histoires, ces petites histoires, c'est des fois ces conseils que c'est de vous donner, les invités que j'essaye d'avoir, etc. Vous êtes vous aussi à courir, à vous dire que vous pouvez être capable de le faire, à vous lancer des défis. Et ça me fait énormément plaisir. Je dis que je veux devenir champion du monde, de mon monde, hein, pro à manière, et ces témoignages me confortent dans cette idée-là. Vous découvrez en 2021 de nouveaux épisodes, des sacrés invités et des sacrés projets, je peux vous garantir, parce que quand je fais la liste et que je regarde un petit peu ce qui va se passer dans les premières semaines de 2021, les premiers mois de 2021, je me dis waouh, on va avoir des chouettes trucs. Mais ça, je veux pas vous le dire aujourd'hui, ça je veux vous garder. Et en fait, j'en parlais avec ma femme et je disais, je veux garder la surprise. C'est-à-dire que je vais vous faire la surprise. J'ai envie que un mercredi, vous ayez un effet, un waouh. Waouh. Ouais, cet effet-là, j'ai envie de vous garder la surprise. Donc, je vais pas tout vous dévoiler, je vais pas tout vous le dire, je vais le garder pour moi. Là, on va se concentrer que sur 2020. Mais ce que je voudrais vous dire pour finir, c'est qu'en 2021, c'est la saison 3 continuera à se dérouler. J'ai un marathon au programme, marathon d'Albi, un swimrun au programme. Toujours, voilà, ça fait partie du programme. Je sais pas ce qu'il y aura d'autre, mais par contre, je vais vous garantir un truc. Je vais vraiment vous rappeler, c'est que Kilomètre 42, c'est d'abord le podcast d'un mec qui s'est lancé un jour le défi de courir un marathon, qui se prend en jeu. Je ne serai jamais le plus rapide, je ne gagnerai jamais de course. Je cours avant tout contre moi-même, contre le hamster joufflu que j'étais il y a quelques années, contre ma tête qui me dit d'arrêter par moment, contre moi quand je veux dépasser mon temps, vous voyez, ce chrono, en fait, je suis mon seul concurrent, voilà, vraiment mon seul concurrent. Par moment, je me challenge en me disant « oui, tu vas essayer d'aller plus vite que ça, oui, ma tête par moment me dit « mais pourquoi tu fais tout ça ?» Mais en fait, à chaque fois, je me rappelle le hamster joufflu que j'étais, et surtout comme j'étais pas bien, malheureux, comme j'avais du mal, tout simplement, à être dans ma vie, voilà, tout simplement. Mais surtout, je dois vous dire que je cours avec vous. En fait, j'ai J'ai un rêve, une sorte d'utopie. En fait, c'est que vous vous sentiez tous capables de courir, que vous ayez envie de vous lancer dans des objectifs fous pour vous et devenir champion du monde de votre monde à votre tour. C'est-à-dire que vous définissiez ce monde et la course, le défi que vous avez envie de gagner. J'ai envie de vous donner des outils pour progresser facilement. Dans mon monde idéal, tout le monde peut courir comme il le souhaite à son niveau. Dans mon monde idéal, tout le monde peut courir à son rythme sans être moqué, sans avoir peur du regard des autres. Dans mon monde idéal, on peut débuter la course à 40 ans et s'éclater même si on court doucement. Dans mon monde idéal, on se lance des défis personnel pour devenir champion du monde de son monde et non pas pour gagner des courses. Moi je l'ai dit, hypothétiquement je ne gagnerai jamais. Dans mon monde idéal, notre cœur est rempli de souvenirs sportifs et pas seulement de séries Netflix. Dans mon monde idéal, la course, le mouvement, le sport nous permet de nous reconnecter avec nous et la nature. Dans mon monde idéal, le sport permet d'avoir une vie plus épanouie, de prendre confiance car cela nous montre que nous sommes capables de faire des choses. Cela nous amène aussi à comprendre l'effort, la discipline, la patience et les objectifs et à le retranscrire dans d'autres domaines de notre vie. Si j'ai réussi à courir, je peux faire ça, 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 ça et ça en l'appliquant les mêmes principes. Des objectifs, des entraînements, rêver, croire en nos rêves, établir un plan, s'entraîner le plus régulièrement possible et arriver petit à petit à remplir nos objectifs et à prendre la confiance que l'on est capable de le faire. C'est ça en fait, Kilomètre 42, c'est aussi ça Kilomètre 42, c'est pas seulement un podcast sur la course à pied, c'est aussi un podcast sur comment on est capable de se lancer nos propres défis, comment on est capable de construire une vie créative à notre manière, c'est-à-dire créative par, on se crée des défis, on se crée des nouveaux objectifs, et puis certains aussi, hein, certains d'entre vous, se créent même des podcasts, comme quoi, vous voyez, la communauté se nourrit de nouveaux podcasts qui se créent, ça fait partie aussi des choses qui sont extraordinaire. Voilà, j'adore de voir le mélange, de voir tout ça, ce mix, et je suis heureux, vraiment très heureux de voir tout ça. Voilà, cet épisode est terminé, mais avant de le terminer totalement, je voulais faire comme la semaine dernière, j'ai quelques messages des hamsters, c'est-à-dire que j'ai lancé un petit appel à message et certains membres du Hamster Zone Club ont laissé des petits messages de vœux. Donc on va terminer cet épisode sur leur voix à eux. Parce que bah, c'est votre voix à vous qui compte le plus, c'est vos oreilles à vous qui comptent le plus. On va se retrouver l'an prochain dans de nouveaux défis, de nouvelles courses, de nouveaux invités, de nouveaux épisodes, de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques. Mais le plus important, c'est qu'on soit tous ensemble heureux de bouger, de courir, de faire du sport et d'être bien dans notre tête, dans notre corps, grâce à ce mouvement et cette énergie que ça nous procure. Allez, je vous laisse écouter, c'est les vœux des hamsters. Je vous souhaite à tous une très 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 belle fin d'année et surtout un très bon début d'année 2021. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien pour nous tous. Meilleurs vœux à tous. Ciao, ciao.
Salut les copains et les copines du Hamster Running Club. Salut à tous les auditeurs de Kilomètre 42, le podcast de Bertrand Soulier, notre hamster en chef. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021, que vous soyez en bonne santé et que tout se passe bien et qu'on puisse refaire plein de compétitions, reporter des dossards et éventuellement se rencontrer en vrai. Allez, bisous à tous, bonne année 2021 et à très bientôt. Ciao.
Oui, bonjour, c'est Laurie. Je me souhaite une année sans blessure puisque en février 2020, j'avais eu une périostite suite à une préparation pour un semi-marathon un peu trop intense au niveau de la progression, du nombre de kilomètres par semaine, de la charge d'entraînement. Et, donc voilà. Et j'ai eu de la chance, c'était une périostite très légère, mais qui m'a quand même arrêté 2 mois. Donc je me souhaite une année 2021 plus raisonnée, avec des dossards, je l'espère. Le retour de dossards serait vraiment, vraiment sympathique. Et un premier semi-marathon, qu'il soit officiel ou non. J'aimerais bien réussir à en faire un fin janvier et réussir à m'inscrire aussi au semi-marathon de Paris. Voilà, avec mon conjoint, si possible. Est-ce que ce sera possible de s'inscrire? Est-ce qu'il aura bien lieu? Je n'en sais rien, mais c'est tout le mal que je nous souhaite. Et sinon, de façon plus générale, continuer de courir avec autant de plaisir, en pleine nature, prendre de belles photos, ne pas me prendre au sérieux surtout, et apprécier ces moments-là.
Salut, c'est Kylian de Sport Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle année. J'espère qu'on pourra ressortir quand on veut, où on veut, avec qui on veut très rapidement, et que chacun pourra accomplir ses défis. En tout cas, voilà, bonne année à tous et à bientôt.
Salut Bertrand, salut à toutes et à tous. C'est Hermano du podcast Dunacan et du podcast Dans les Vestiaires. Bon, voilà. L'année 2021 a commencé et j'espère qu'elle apportera avec elle son lot de beaux moments. J'espère que l'on ne retombera pas dans une crise sanitaire aiguë, que l'on va réussir à s'en sortir avec ce fichu virus et que l'on va pouvoir s'adonner à nos sports favoris. Un peu de marche, un peu de course, un peu de compétition, un peu de triathlon, un peu de swimrun, enfin voilà. J'espère en tout cas que tout le monde pourra s'exprimer dans son sport et dans ses loisirs. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne année 2021 et puis je vous dis à très bientôt sur les ondes du podcast de Bertrand. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.